nous avons essayé de créer une chaîne d'un ton et d'un style très jeune.
Prinspectif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur prinspectif.net. Prinspectif, le mix des cultures.
Bonjour et bienvenue, 10h, TU midi, ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, la fin du séjour en Chine de Donald Trump, visite de 2 jours dans les 2 pays reste un bilan positif. Visite historique qui fera date selon Xi Jinping. De son côté, le président américain se félicite d'avoir décroché des accords commerciaux, je cite, fantastiques, ainsi qu'une proposition d'aide pour débloquer le détroit d'Hormuz. La RDC à nouveau frappée par le virus Ebola. L'agence sanitaire de l'Union africaine annonce qu'une épidémie est confirmée dans la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, région en proie à des conflits armés. En France, le ministre de l'Intérieur affirme sa détermination intacte et totale contre le narcotrafic. Il s'est rendu ce matin à Nantes au lendemain d'une fusillade qui a coûté la vie d'un adolescent de 15 ans. 2 autres jeunes ont été blessés. Mais tout de suite, et pour commencer ce journal, ce 15 mai marque l'anniversaire de la Nakba, la catastrophe en arabe. En 1948, des centaines de milliers de Palestiniens avaient été chassés de leurs terres au moment de la création de l'État d'Israël et de la guerre israélo-arabe qui avait suivi. Dans la bande de Gaza, il reste quelques témoins de cette époque. Ils sont peu nombreux et âgés. Rami Al-Megari a rencontré Nassera, réfugiée avec sa famille à Gaza en 1948. Aujourd'hui, elle vit à Nouserat. Reportage avec Frédéric Misselin à Jérusalem.
La voix chevrotante de Nassera s'éclaire lorsqu'elle évoque les souvenirs de son village de Karatia, l'odeur du pain chaud qui sort du taboun, le four en terre cuite, et l'eau que l'on va chercher à Dodane. Aujourd'hui, Karatia n'existe plus, c'est une ville israélienne à une 30 kilomètres au nord de Gaza.
J'espère toujours rentrer en Palestine, même juste pour quelques temps, et revenir.
À 88 ans, Nassera se déplace avec un déambulateur. Les survivants de la Nakba, comme elle, ne sont plus très nombreux à Gaza. Elle a dû quitter son village en 1948 au moment de la création de l'État d'Israël.
Mon père possédait une grande superficie de terres agricoles. À cette époque, il avait engagé des gens pour cultiver la terre. Il les payait en leur donnant une part de la récolte en blé, en orge. Ma mère s'occupait du foyer.
Ensuite vient la destruction du village par les troupes israéliennes et l'exode. 750 000 Palestiniens ont été chassés ou se sont enfuis lors de la guerre israélo-arabe. Nassera, elle, a toujours un statut de réfugié. Rami Al-Megari dans la bande de Gaza, Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
Je vous le disais pour commencer, Donald Trump a maintenant quitté la Chine au terme d'une visite de 2 jours dont les 2 pays dressent un bilan positif. Visite historique qui fera date, a dit le président Xi Jinping, qui a salué l'établissement entre les 2 puissances rivales d'une nouvelle relation, de, je cite, une stabilité stratégique constructive. De son côté, Donald Trump s'est targué d'avoir décroché des accords commerciaux fantastiques, sans plus de précision, ainsi qu'une offre d'aide chinoise pour débloquer le détroit d'Hormuz. Dans un communiqué, Pékin a réclamé ce matin un cessez-le-feu complet au Moyen-Orient, ainsi que la réouverture de ce détroit stratégique dès que possible. À la fin de ce sommet sino-américain, il n'a pas été fait mention officiellement de Taïwan. La Chine considère de longue date cette question comme le plus grave point de contentieux dans ses relations avec les États-Unis. Le président Xi estime que l'administration américaine doit faire très attention à la manière dont elle le traite, sans quoi Washington et Pékin pourraient entrer en confrontation. Faut-il y voir la menace réelle d'un conflit ou bien juste un vocabulaire imagé du président chinois? Élément de réponse avec Vincent Souriau à Washington.
L'agence officielle qui relate les discours de Xi Jinping, c'est l'agence Xinhua. Mais voici sa traduction française des propos du président chinois. Si la question de Taïwan n'est pas traitée correctement, les 2 pays connaîtront, je cite, des heurts, voire des conflits. Fin de citation. Les universitaires américains, eux, décryptent cette notion depuis des années. Et ce n'est pas si simple, car ce terme qui fait polémique, Daozhong, renvoie à l'idée de lutte, par exemple, de lutte des classes dans la culture marxiste. raciste et au lieu de la guerre ou du conflit, on s'approcherait plus, écrivent plusieurs chercheurs, d'un concept philosophique lié à la résilience, à l'endurance ou à la détermination face à l'adversité. Les analystes américains qui voient au contraire un appel à la confrontation directe avec les États-Unis se placent à droite de l'échiquier politique. En 2023, un sinologue, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale de Donald Trump, voyait ainsi dans cette expression un message très clair. Il s'agit, disait-il, d'intimider Taïwan et d'en prendre le contrôle par la force. Vincent Souriau, Washington RFI.
En Ukraine, la capitale Kiev observe une journée de deuil au lendemain des bombardements massifs de la Russie dans la nuit de mercredi à jeudi. Un dernier bilan fait état de 24 morts. Nouveau bilan des secours qui s'emploie encore à déblayer un immeuble effondré. En Russie, on apprend de sources locales qu'une attaque de drone ukrainien a fait 4 morts et au moins 12 blessés dans la ville de Ryazan au sud-est de Moscou. Parallèlement, Russes et Ukrainiens ont procédé ce matin à l'échange de quelques 205 prisonniers de guerre dans chaque camp. L'actualité nous emmène aussi à Cuba où vient de se tenir une rencontre exceptionnelle. Le directeur de la CIA était hier à La Havane pour y rencontrer de hauts responsables cubains alors que l'île communiste connaît une grave crise énergétique. Une nouvelle coupure massive de courant a frappé hier la partie orientale de Cuba. La situation est critique au point que le gouvernement cubain se dit prêt à examiner une offre d'aide de 100 millions de dollars proposée par Washington. Offre jugée hypocrite par l'économiste cubain Omar Everleni. On l'écoute.
C'est particulièrement immoral. Ils bloquent l'entrée des navires pétroliers et ensuite ils disent vouloir nous proposer une aide financière. Mais si la situation est si mauvaise, c'est à cause d'eux. Les gens sont partagés. Certains disent cette aide c'est toujours bon à prendre car on est dans une situation désespérée. Mais pourquoi les États-Unis ne permettent pas au Mexique ou au Venezuela de nous envoyer un navire pétrolier? Cuba paye pour ce pétrole avec l'envoi de médecins cubains. Les problèmes les plus compliqués auxquels l'île fait face, c'est à cause des sanctions imposées par les États-Unis. Même si c'est vrai que beaucoup de difficultés sont liées à des décisions internes et auraient pu être résolues si le gouvernement avait plus ouvert le pays à l'économie de marché ou plus libéralisé l'agriculture et le secteur privé.
L'économiste Omar Everleni, ancien directeur du Centre d'études économiques de l'Université de La Havane, il répondait à Jessica Brumec de la rédaction en espagnol de RFI. La RDC est à nouveau frappée par le virus Ebola. L'agence sanitaire de l'Union africaine annonce qu'une épidémie est confirmée dans la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, région en proie à des conflits armés. Selon cette agence, 4 décès ont été attribués au virus au laboratoire, alors que 246 cas suspects, dont 65 mortels, ont été recensés. Malgré de réels vaccins, de récents vaccins et traitements, ce virus reste souvent mortel. On en reparle plus en détail dans le journal de 13h. 6 passagers du navire de croisière où s'est déclaré un foyer d'antivirus sont arrivés sur une base militaire de l'ouest de l'Australie où ils devaient être placés en quarantaine. Leur test était négatif avant leur embarquement. Ils doivent être à nouveau testés. Dans l'actualité économique, le développement de l'intelligence artificielle fait peser la menace d'une perte massive d'emplois. Il y a encore quelques jours, la société de traduction DeepL a ainsi annoncé la suppression d'un quart de ses effectifs. Si l'impact global sur le marché du travail reste incertain, certains métiers sont plus exposés que d'autres à l'automatisation par l'IA, notamment Aurélien de Vernois dans des secteurs où les femmes sont majoritaires.
Et en particulier les métiers administratifs, d'assistance de direction, de réception, de secrétariat. Selon l'Institut américain Brookings, 6 millions d'emplois de ce type seraient menacés aux États-Unis. Or, 85% d'entre eux sont occupés par des femmes. Aida Ponce del Castillo est chercheuse à l'Institut européen des syndicats.
C'est important de savoir que l'intelligence artificielle arrive dans un marché de travail qui est inégal à la base. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est de remonter les inégalités qu'on a déjà à la base et le niveau de précarité.
Le risque est également lié au fait que les travailleurs menacés vont avoir du mal à rebondir car ne pouvant pas, par exemple, se payer des formations. Aida Ponce del Castillo pointe également une spécificité des femmes vis-à-vis de l'IA.
En plus, les femmes se posent plus de questions par rapport à l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle générative.
L'Organisation internationale du travail estime à près de 10% les emplois occupés par des des femmes menacées par l'IA dans les pays les plus riches, avec comme risque majeur une baisse du taux d'emploi féminin et une augmentation de l'écart salarial homme-femme, déjà constaté en 2024 et 2025 aux États-Unis.
C'était Aurélien Devernois du service économie. En France, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez s'est rendu ce matin à Nantes au lendemain d'une fusillade mortelle liée au trafic de drogue. Un adolescent de 15 ans a été tué, deux autres jeunes ont été blessés. Nantes est endeuillée par l'insupportable mort d'un adolescent, a réagi la maire Johanna Roland. Le ministre, lui, affirme sa détermination intacte et totale contre le narcotrafic. Les tirs ont éclaté hier soir dans un immeuble d'un quartier populaire du nord de Nantes, dans l'ouest de la France. Enfin, en tennis, le tournoi sur terre battue de Rome, le russe Medvedev est en demi-finale. Il défie aujourd'hui le numéro 1 mondial et grand favori du tournoi, l'italien Yannick Sinner. Excellente journée sur RFI, à suivre 8 milliards de voisins, présenté aujourd'hui par Lucie Bouteloup.
Ce samedi, dans tous les sens du monde, Sophie Tourneur.
une semaine difficile, vous méritez aussi de vous divertir. Cette émission, sa modeste ambition est de vous faire oublier vos soucis en vous faisant découvrir des visages nouveaux qui seront associés à des locomotives.
Principe actif.
Et j'aimerais pour commencer que vos applaudissements aillent à ceux qui ont beaucoup travaillé avec nous.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe actif, le mix des cultures.
Maman voulait me peser café, ouais. De ma mère et d'aime. Maman me voyait me peser café, ouais. En arrivant dans ce potage, de ma mère et d'aime. Oh, ça m'a pris la caille, les mères rivées. 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 Maman voyait me peser café, ouais. En arrivant dans ce potage de ma mère était. Pesé café, ouais. En arrivant dans ce potage de ma mère était. Oh, ça m'a pris la caille, les mères rivées. Ça m'a pris la caille, les mères rivées. Ça m'a pris la caille, les mères rivées. Ça m'a pris la caille, les mères rivées.
Mon amour propre comme une lance, pointe vers l'obscur, le tordu. La besogne d'un mec obtus qui s'abîme de persistance. J'ai bien failli perdre le sens et beaucoup s'y sont perdus. Combien d'amis elle a eu, celle qu'on nomme des espérances. Pourtant je reste comme en transe, attaché comme un mordu. À cette chose qui épuise-tu, me ferait déplacer l'immense. J'ai les pieds lourds, l'esprit rance, suis épuisé, y'a plus de jus. Y'a des jours où je me situe entre le néant et l'absence. Pourtant encore si j'avance, c'est qu'elle me colle, me pollue. Ma saleté d'espérance. Thank you. prélassée entre divan et télé. Mais y'a la sueur qui coule et les idées qui dérangent. La sueur noie les idées et je reste un peu lassé. Mais bientôt une vague me saoule, m'aspire, me noie, me démange. Le monde s'est laissé régler, les foules sont apprivoisées. L'économie est une bible, consommation est leur ange. Et on prie l'esprit pillé pour qu'il nous laisse épargner. On croit qu'on décroche la lune avec nos ailes de mésange. Et quand je parle de mes projets introuvables chez le VRP, on trouve que je suis endiablé, on dit de moi que je m'enfonce. Fini par dire que je suis fâché, fauché, je deviens défâché avec ma saleté d'espérance. Les mots de tête ont repris et tous les mots qu'on s'est dit. Nos vieux plans, nos stratégies, valables pour changer trois mondes. On pense plus, on les oublie, on en rit et on sourit. Pourtant dans la tête réside une voix endormie qui songe. Elle sommeille dans un bon lit, à l'édredon bien rempli. Elle s'enfonce dans tant de repliques, son lit ressemble à une tombe. Mais dans mon esprit meurtri, cette vie n'est pas endormie. Son lit doit être fait d'ortie, car elle gratte et ça me ronge. Elle m'impose tous ses ennemis, elle m'engraine vers les conflits. Plonge ma tête dans nos vomis, qu'elle conçoit les conséquences. J'ai des taches d'antipathie, des boutons de fièvre compris. C'est ma saleté d'espérance. Ce morceau, ça sera parce que je perdure, ou bien parce qu'en coup dur, je l'aurais chanté dans le métro. Mais s'il passe à la radio, ou s'il crache dans ta voiture, sache qu'à son stade d'écriture, j'étais assis dans un bistrot, refusant de vivre des rimes, préférant vivre d'intérim, pour laisser libre cours à l'art, sans patron, sans référence, laissant loin de moi cette prime qui rend bien médiocrissime, laissant mes mots devenir star, révolutionner cette science, ma plume jouant de l'escrime pour m'aiguiser dans l'estime, autant des formes assassines, et pourtant je reste dans la danse. C'est que dans mon malheur prime, mon ami le plus intime, ma saleté d'espérance.